Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
C'est en direct depuis le Salon du Livre à Paris que nous ouvrons notre émission en compagnie aujourd'hui de Daniel Mesguich. Daniel Mesguich est un acteur, un lecteur, un pédagogue et un metteur en scène hyperactif. Racine, Shakespeare, Molière, Marivaux, Victor Hugo, on ne fera pas ici le tour des auteurs qu'il a mis en scène, mais on va s'attarder sur celui qui occupe actuellement ses pensées. Je parle de Hercule Savinien de Cyrano Bergerac, qu'Edmond Rostand a propulsé vers la postérité et qui, au XVIIe siècle, a écrit une tragédie et une seule, La mort d'Agrippine. Cette pièce, Daniel Mesguich la met en scène avec une fureur jubilatoire au théâtre de Jazé à Paris. Son spectacle est l'occasion de nous interroger sur une lettre fondamentale de l'alphabet théâtral, la lettre D. D comme descendance, défi, duperie ou peut-être distanciation. Nous ouvrons donc avec Daniel Mesguich et à sa lettre D, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Bonjour Joël.
Alors, la dernière fois que je vous ai vu sur scène, vous soupiez avec votre fils William. Vous étiez Fouché. Lui était Fouché. Vous incarniez Talleyrand. C'était dans une pièce de Jean-Claude Briseville qui se jouait au petit théâtre de Poche-Montparnasse. Et là, vous dirigez votre fille Sarah Mesguich, dans La mort d'Agrippine. Elle interprète le rôle d'Agrippine. Agrippine qui va échouer, malgré toute sa duplicité, à venger la mort de son époux Germanicus, dont elle estime qu'est responsable le grand ennemi Tibère. Alors on va démarrer cette émission par la lettre D, D comme descendance. Pourquoi et comment le théâtre est-il devenu pour vous une affaire de famille, Daniel Mesguich ?
La plupart des gens pensent qu'il y a du népotisme là-dedans, c'est-à-dire que je travaille avec mes enfants parce que je les aime et parce que je veux leur donner de grands rôles, de beaux rôles, etc. etc.
Vous ne les aimez pas en fait ?
En réalité, c'est plus simple que ça. Dans mon entourage, les meilleurs acteurs sont mes enfants. Alors j'engage les meilleurs acteurs et il se trouve que j'engage mes enfants.
Mais est-ce qu'avoir face à soi son fils ou sa fille, ça fait de vous un meilleur metteur en scène ? Je veux dire par
ça,
là, est-ce que ça accroît chez vous l'exigence ?
Oui, sans doute, parce qu'ils me connaissent bien. Je les connais bien, mais ils me connaissent bien aussi. Et sans doute, il faut les surprendre sans arrêt, sinon ils ont l'impression que c'est la routine. Ils savent très bien ce que je vais dire avant même que je le dise.
Mais la pudeur du père par rapport à ses enfants, ou des enfants par rapport au père, elle est évacuée de la scène du théâtre, Daniel Mesguich ?
Oui, réellement oui. De temps à autre, je m'en souviens. Je m'en souviens quand tout va bien, quand je suis calme, je suis en train de regarder le spectacle, et je vois une salle pleine de gens comme ça qui vibrent au spectacle, et je me dis, mais c'est incroyable, c'est des petits dont j'ai changé les couches, enfin, que les gens sont en train de regarder. Voilà. Alors effectivement, de temps à autre, j'y pense. Mais dans le travail, je crois que je n'y pense jamais. Jamais. Et il me semble que eux non plus. De temps à autre, contrairement aux autres acteurs de la distribution, au lieu de m'appeler Daniel, ils m'appellent papa. C'est un peu bizarre. Mais pour le reste, non, il n'y a pas d'interférence.
Alors si vous les regardez, eux aussi vous regardent forcément, Daniel Mesguich, et nous allons découvrir dans cette saison au théâtre ce que dit ce regard grâce à notre collaboratrice Chouchane Djergaillan qui est allée interviewer votre fille Sarah qui joue, je le répète, le rôle d'Agrippine. On écoute Sarah Mesguich.
Daniel, il a un rapport au théâtre, au texte, que je trouve absolument passionnant, qui est philosophique, qui est psychanalytique. C'est-à-dire que quelquefois, il donne à voir ce qu'on pourrait appeler, pour aller très très vite, parce que ce serait plus compliqué, mais quelque chose qui serait conscient. Mais quelquefois, il nous donne à lire de l'inconscient. Donc lui, il voit plus des traversées, c'est comme des forces qui nous traversent. On peut traverser comme ça plusieurs continents d'émotions, et pas seulement une chose qui paraîtrait cohérente et qui serait finalement banale et assez convenue.
Alors, rapport philosophique, ça, on comprend, Daniel Mesguich, puisque vous avez une formation de philosophe. Rapport psychanalytique, Ça veut dire quoi ?
Oh, ça veut simplement dire que je ne suis pas analyste, hein, et je n'ai d'ailleurs jamais fait d'analyse personnellement, donc je suis un peu un imposteur en psychanalyse. Mais j'ai lu énormément de livres de psychanalyse, de Freud à Lacan et même bien après Lacan. J'aime ça, je travaille ça beaucoup, j'ai énormément d'amis analystes, psychanalystes, et je crois que c'est une donnée fondamentale du monde tel qu'il va, et du théâtre en particulier, parce que quiconque ferait du théâtre sans s'occuper une seule seconde de la psyché ne fait pas de théâtre.
Je voudrais savoir, puisque je disais qu'on va décliner la lettre D, quel est le défi que vous a posé cette pièce très particulière, très singulière et pas simple, qu'est La mort d'Agrippine de Hercule Savinien de Cyrano Bergerac. C'est son nom exact.
C'est son vrai nom, oui. Écoutez, le défi, je ne sais pas, il y en a plusieurs. En réalité, quand j'allais voir les gens et que je disais « je vais monter une pièce de Cyrano de Bergerac », tout le monde me disait « ah bon, Edmond Rostand ?» avec un grand nez, enfin voilà. Et comme c'est à la mode en ce moment, vous le savez bien, il y a un film qui est sorti, etc. Magnifique d'ailleurs. Donc j'étais obligé de combattre cette idée-là, cette image-là, pour expliquer plusieurs choses. Cyrano de Bergerac est un auteur qui n'est pas passé à la postérité comme il l'aurait dû, car je le tiens, quant à moi, pour un des plus grands écrivains, non seulement du XVIIe siècle, mais de la langue française en général. Il fait partie des 10 plus grands écrivains français, tout court, à mon avis. Simplement, il est mort à 35 ans, sans doute assassiné par les dévots, d'ailleurs. Il est mort à 35 ans, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il a fait un roman génial, Les États et Empires de la Lune et du Soleil, une comédie géniale, Le Pédant joué, que Molière a honteusement pillé, puisque la grande scène de Scapin, que diable allait-il faire dans cette galère, elle est intégralement dans Cyrano de Bergerac. Et puis, une seule tragédie géniale, La mort d'Agrippine. Et puis, il est mort. Donc, ça n'aide pas pour la postérité. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que l'enseignement était tenu par des religieux et que, quand ils ont créé la pièce, les acteurs et lui, ils ont été obligés de fuir car les gens les poursuivaient pour les attraper et sans doute les brûler. Car c'est une pièce d'un athéisme radical. Et enfin, il a eu le malheur d'avoir un nom extrêmement connu, puisque au XIXe siècle, alors qu'on commençait à découvrir son génie, c'est-à-dire Nodier, Gautier, commençait à dire « mais il y a un immense écrivain qui s'appelle Cyrano de Bergerac », voilà que tout à coup Edmond Rostand écrit Cyrano de Bergerac et que le personnage truculent, haut en couleur, le bretteur magnifique, etc., recouvre entièrement le véritable type qui s'appelait Cyrano de Bergerac et qui est un génie. Voilà. Donc le défi, c'était de dire « attendez, malgré les forces les plus violentes, l'enseignement religieux, et même quand il est laïque, il est très religieux, comme vous le savez très bien, donc qui n'a pas voulu de lui, malgré sa jeunesse, malgré le peu d'œuvres qu'il a écrites, malgré Edmond Rostand, il faut dire que Cyrano de Bergerac est un génie. Ça, c'est un défi.
Mais quelle place est-ce qu'il tenait, parce qu'il a finalement assez peu écrit, tout génie soit-il, quelle place tenait-il, ou quelle place vous lui donnez-vous entre Corneille et Racine ? Parce qu'on parle là du XVIIe siècle, qui est le siècle fondateur pour le théâtre français.
Alors, c'est compliqué.
Daniel Mesguich.
L'héroïsme, la force, la grandeur des personnages comme ça, ça c'est cornélien. Et d'ailleurs, il ne connaissait lui que Corneille. Il vient avant Racine, juste avant. Mais il le pervertit sans arrêt. Vous savez, il y a trois exemples que je peux donner très vite. Le premier, c'est la scène d'exposition. Comme chacun sait, il y a toujours une scène d'exposition, et Corneille était le roi de la scène d'exposition. Et voilà que lui, dans sa scène d'exposition, il dit « Je vais te raconter la mort de Germanicus, pour bien expliquer tout ça aux gens, mais fais comme si... » Il dit ça, il fait dire ça à Agrippine, à sa suivante, « Mais fais comme si tu ne la connaissais pas, parce que je sais que je t'ai déjà rabâché ça plusieurs fois. » Et l'autre répond « Non, d'ailleurs, je m'en souviens plus, effectivement. » Donc ça commence comme ça. Donc la scène d'exposition elle-même est pervertie. Pour des raisons plus profondes que simplement un gag, mais déjà commençons par le gag. Ça s'appelle La mort d'Agrippine. Agrippine est le seul personnage qui ne meurt pas. A priori, parce qu'en réalité, vous allez voir que c'est la seule qui meurt vraiment, de ce qu'on appelle mourir et non pas simplement décéder. Et puis enfin, à la fin, la scène où, en général dans les tragédies de Corneille, on vient raconter la mort des héros, voilà que lui, il fait dire à Tibère, l'empereur, « Est-ce qu'ils sont morts ?»« Oui, » répond la personne qui avait commencé un magnifique monologue. « Alors ça suffit, et c'est la fin de la pièce. » Donc il y a une insolence comme ça par rapport à Corneille. Mais il est plus proche de Racine, oui. Ou plutôt Racine est plus proche de lui, puisqu'il vient avant. Pourquoi ? Parce que la différence entre Corneille et Racine, pour aller très très vite, hein, il faudrait une vraie étude et pas
simplement quelques... Il faudrait plus qu'une demi-heure d'émission,
on est d'accord. Échangés. Mais la différence, pour moi en tout cas, la première différence, c'est que Corneille est un rhéteur. C'est un avocat et il bâtit la phrase numéro 2 sur la phrase numéro 1. Il bâtit la phrase numéro 3 sur la phrase numéro 2. Et donc il construit des citadelles de rhétorique. Racine, au contraire, chaque vers est seul au monde comme une île perdue dans l'océan. Et à la fin, à la rime, ça tombe en poussière ou en poudre. C'est plus rien. Et de nouveau, il faut inventer un autre vers, et de nouveau un autre vers, etc. Il n'y a aucune sûreté du langage chez Racine, alors qu'il y a une solidité, une foi dans le langage chez Corneille. De ce point de vue-là, Cyrano de Bergerac est très racinien. Chacun des vers se lance et fond comme neige au soleil, quoi.
Je te jure, tu vas me laisser passer.
Tu prends pour Dieu, autour de pied, tu me fais mes gueules.
Nous poursuivons depuis le Salon du Livre, dans l'émission Une saison au théâtre, notre exploration de la mort d'Agrippine avec Daniel Mesguich. Une pièce complexe, je le disais, on vient de le comprendre avec vous, Daniel Mesguich, et on va aussi le comprendre en écoutant de nouveau votre fille Sarah Mesguich.
En fait, il y a une première scène qui serait une scène d'exposition. On commence à plus ou moins comprendre quels sont les enjeux, qui est qui veut quoi. Donc on prend comme vérité cette première scène. Et dès la deuxième scène, on se rend compte que non, en fait, dans la première scène, on mentait. Ah bon, d'accord. Alors donc la deuxième scène, c'est la vraie... Et non, on se rend compte dans la troisième scène que dans la deuxième scène aussi on mentait. Et donc c'est une métaphore du théâtre. C'est-à-dire que tout est mensonge, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la vérité, et c'est même, je crois, ça qu'on va voir au théâtre, enfin il me semble, mais ça ne tient pas, on ne sait pas sur quoi s'appuyer, tout est fiction. Là où on croyait que c'était, ah bah donc c'est ça, l'histoire qu'on va nous raconter, c'est celle-ci. Et hop, on se rend compte, ah bah non, c'était pas ça. Et de glissement en glissement, on se rend compte que on ment, c'est pour de faux. Et qu'est-ce qui est pour de faux? Ben, au théâtre, c'est aussi pour de faux. Donc c'est ce pli-là qui, je crois, a beaucoup passionné Daniel.
Et qui nous passionne nous aussi quand on va voir le spectacle, bien évidemment, au théâtre de Jazé, Daniel Mesguich, ce qui nous amène aussi à la lettre D comme Dupri. Ce que vient de dire Sarah, au fond, n'est que l'envers de la croyance qui est au centre même de la représentation. Est-ce que cette pièce de Cyrano de Bergerac, on pense, passe son temps à annoncer des choses que la scène d'après va démontrer comme étant fausses, est emblématique de la vocation même du théâtre, faire passer pour vrai ce qui n'est pas vrai, Daniel Mesguich?
Je ne dirais pas que la vocation du théâtre, c'est faire passer pour vrai ce qui n'est pas vrai.
Sinon, ah, c'est bien un peu de manipulation quand même, qui est... que la fiction est plus importante que le réel.
Là, ce serait un théâtre aristotélicien que Brecht pourfendait et essayait de combattre. Mais je crois qu'il pourfendait, Brecht, pour qui j'ai énormément de respect, il pourfendait et il essayait de combattre un leurre. Parce que ce théâtre de la croyance absolue n'a jamais existé. Personne au monde ne croit que le gars qui vient d'entrer, c'est vraiment le prince du Danemark quand on joue Hamlet. Enfin, personne au monde. On sait bien que c'est un acteur qui le fait. Simplement, le problème, c'est que Cyrano de Bergerac, je l'ai dit tout à l'heure, est athée. Mais il n'est pas athée simplement parce qu'il ne croirait pas en les dieux. Il est athée parce qu'il ne croirait pas en quoi que ce soit. Là, en ce moment, par exemple, nous faisons une émission ensemble au Salon du Livre. Nous sommes à peu près sûrs et certains qu'un rhinocéros ne va pas entrer, là, maintenant. Voilà, je le crois. Je le crois fortement. Je n'en sais rien. Vous voyez, la croyance, elle est partout. Je crois que je ne peux pas acheter un beefsteak dans un bureau de tabac. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je verrai la buraliste et je dirai un beefsteak, s'il vous plaît, elle m'en donnera un. Mais a priori, je crois que non. Je crois fort que non. Vous voyez, nous sommes pétris de croyances. Le théâtre en général, et alors cette pièce magnifique de Cyrano Bergerac en particulier, dit « Remettons sur la question... croyance. Remettons-la sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Nous sommes incapables de ne pas croire. Même le plus athée, le plus cynique d'entre nous croit quand même plein de choses. Comment faire pour ne pas croire? comment défaire cette chose-là. Ça ne veut pas dire d'ailleurs ne pas croire et c'est tout. On serait perdu dans le monde en croyant rien. Non, ça veut dire réfléchissons sans arrêt, remettons ça sur le tapis, essayons d'ouvrir cette chose-là, de l'entendre, de l'analyser, de la mettre en rapport et en regard avec d'autres choses. Et cette croyance-là, si on la défait bien, si on sait la déconstruire, pour employer un gros mot philosophique de Jacques Derrida, si on arrive à la déconstruire, alors je pense qu'on vit mieux, qu'on vit au-dessus de notre propre condition, qu'on est plus civilisé, si j'ose dire. Je crois que c'est ça que fait Cyrano de Bergerac. Et alors il nous le montre, il nous dit, voilà, cette scène-là, vous y croyez un peu, parce que quand on est au théâtre, on croit un peu, quand même, même si on sait que c'est pas Hamlet qui vient d'entrer, le vrai, ou la vraie Andromaque, malgré tout, on s'efforce d'oublier qu'on sait cela.
On a envie de croire,
voilà, pour suivre un peu.
On est là pour ça.
Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si à la scène 2, on vous dit, vous avez cru, mais c'est faux. Et si à la scène 3, on vous dit, non seulement la scène 1, mais la scène 2 aussi était fausse. Et donc, il ne reste rien. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce que je regarde? Sur quoi ça se pose, cette chose-là? Et précisément, ça se pose sur rien. Ce serait ça, l'athéisme radical de Cyrano de Bergerac. Mais son athéisme va très loin, parce que il s'agit de la mort. À la fin de la pièce, l'un des personnages, c'est Janus, reprenant Épicure et Lucrèce à son compte, dit « Qu'est-ce que c'est que mourir ? Quand je serai une heure après la mort, je serai exactement comme j'étais une heure avant la vie. Ça fait pas mal, ça. Enfin, j'avais pas mal avant de naître. Donc c'est rien, votre histoire. » Et tout le monde le croit. Même ceux qui ne sont pas athées, par exemple l'empereur Tibère, le croient aussi, puisque quand on lui dit « Ils sont morts », il dit « Bon, bah, alors ça suffit, ça y est, c'est fait. » En revanche, il y a une autre mort, celle d'Agrippine. C'est le verdict que donne, la sentence que donne Tibère à Agrippine. Agrippine lui dit « Vas-y maintenant, tue-moi, allez, sois horrible jusqu'au bout !» Et alors il lui répond « Mais depuis quand est-ce qu'on est amis pour que je te tue ?»« Bien sûr que non. Moi, ce que je veux, c'est que tu vives encore très longtemps dans la peur de mourir. » Autrement dit, il y a mourir sa mort, qui n'est rien, et vivre sa mort, qui est énorme et qui peut durer très longtemps. C'est cette vie-là dont parle la pièce. Et c'est pour ça que ça s'intitule « La mort d'Agrippine ».
En 1960, Antoine Bourseiller mettait en scène cette pièce, « La mort d'Agrippine » au studio des Champs-Élysées. Il faut dire qu'elle est très très peu mise en scène.
Pratiquement jamais.
C'est pour ça que c'est un événement de pouvoir la découvrir au Théâtre de Jazé en ce moment à Paris. Et à l'époque, un critique, André Alter, avait pris la parole et il affirmait des personnages du texte de Cyrano Bergerac, que ces personnages étaient des monstres et que le mal absolu était dans l'âme, je le cite, de ces grands fauves. Il ajoutait que le seul refuge contre la fureur était leur mort et que leur mort était néant. Il semblait sous-entendre qu'il y avait une vision totalement nihiliste que je n'ai pas retrouvée dans votre spectacle, Daniel Mesguich, parce que si nihilisme il y a, il est tempéré quand même par, on le sent, un désir aussi d'aller vers le rire, d'aller vers le rire qui est le vôtre par rapport à tout ceci, à ce qu'écrit Cyrano Bergerac, Daniel Mesguich.
D'abord, c'est Cyrano qui est drôle. Enfin, je veux dire par là qu'il a un humour incroyable. Ça n'arrête pas d'être drôle, mais drôle comme peut l'être Kafka, comme peuvent l'être les grands tragiques. C'est-à-dire drôle parce que ça se décolle de soi-même sans arrêt. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne m'intéresse aux pièces que dans la mesure où elles sont une métaphore généralisée de l'acte même de faire du théâtre. Ce qui ne veut pas dire, je m'empresse de le signaler, que ce soit corporatiste. Ah bon, alors ça parle de théâtre, donc ça t'intéresse, ça ne parlerait pas de théâtre, donc ça ne t'intéresserait pas. Non, bien sûr que non. Je n'entends pas le théâtre comme
un
métier de serrurier pour un serrurier,
oui,
ou d'ingénieur pour un ingénieur. Non, je dis simplement que nous sommes en train de faire du théâtre, c'est le support, et maintenant, la plupart des gens font ça, il y a un théâtre, et dessus, on joue telle ou autre pièce. Moi, je pense que la pièce elle-même crée le théâtre, se réenroule sur elle-même, soulève les planches et crée le théâtre lui-même. Autrement dit, ce ne serait pas cette pièce qu'on mettrait en scène, il n'y aurait pas de théâtre. Ça ne se jouerait pas, ça ne se concevrait même pas l'acte de faire du théâtre. Seules les pièces qui semblent annoncer ça m'intéressent. Hamlet m'intéresse, certaines grandes pièces m'intéressent. Celle-ci en est une. C'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qui caractérise, me semble-t-il, le théâtre, c'est évidemment un rapport à la langue, obligatoirement un rapport à la langue. Même dans le théâtre le plus muet, uniquement d'images, si fantasmatique et belle soit-elle, il y a une langue derrière, cachée. Si je vois pour la première fois le panneau rond avec une barre rouge horizontale, ça ne me dit rien, cette image. Mais si je connais le sens des mots « sens » et « interdit », alors je comprends. Il y a donc toujours des mots cachés derrière les images. Il n'y a pas d'image sans mots. Le théâtre, c'est quelque chose qui dit « je prends les mots et, j'ouvre les mots jusqu'à ce qu'il y ait des images qui sortent ». Comme dans leur ventre, en quelque sorte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça dans Cyrano de Bergerac. C'est ce mouvement-là, ce roulement-là, en quelque sorte. Et c'est là... On arrive à l'autre D, c'est la distanciation.
Oui. C'est-à-dire que... Il est sur mes fiches. C'est pas du jour.
Non, c'est pas ça, vous l'avez annoncé tout à l'heure.
C'est la lettre d'après,
cet humour-là, c'est cette distance-là, en quelque sorte. Distanciation chaude, pas froide, pas brechtienne, pas pour dire « j'ai beaucoup joué, maintenant j'arrête et je vous chante un truc ». Non, non, non. Dans l'acte même de jouer chaudement, vivant, il y a de la distance. Cette distance, c'est l'humour.
Vous parlez de la langue comme étant fondamentale pour vous et du sens également, Daniel Mesquich. Moi, je pense qu'il y a une autre langue, et d'ailleurs, vous la mettez en pratique, en œuvre, en mouvement, c'est la langue du corps. La langue du corps n'a pas forcément besoin de son, n'a pas forcément besoin de vocable, de grammaire. Le corps a sa propre grammaire, et justement, le corps, vous le sollicitez. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on retourne par la sagesse de votre fille, Sarah Mesquich, qui explique de quelle manière... Vous les dirigez, eux, les comédiens.
Elle est d'une exigence et d'une précision absolument, j'allais dire diabolique, je pourrais presque dire pathologique. Et d'ailleurs, c'est génial parce que d'abord, ça fait des spectacles nets, lisibles et pas brouillés, brouillons. Et puis, pour les lumières. C'est-à-dire que si on est à cette place-là, on est à cette place-là. On n'est pas 10 cm derrière, devant, ou voilà. Donc, effectivement, il est extrêmement exigeant et précis. Daniel, il aime énormément une très, très grande immobilité. Et quand on fait un geste, alors c'est un vrai geste. Il a un vrai, je pense qu'il a un vrai rapport au corps et au corps des acteurs, et qu'il aime énormément qu'il y ait du corps. Il aime travailler le texte et il aime travailler le corps.
Et vous aimez tellement travailler le corps que je crois que vous avez fait appel à une chorégraphe pour
Caroline Marcadet,
qui n'est pas n'importe quel chorégraphe, pour aider les comédiens à faire ce qu'ils font, qui est très étonnant. C'est-à-dire que si vous allez voir le spectacle, je donne juste une image, il n'y a aucun décor. Le décor, ce sont les corps.
Et les lumières.
Et les lumières.
Et les costumes.
Et les costumes. Voilà, les trois éléments, plus évidemment la langue de Cyrano. Mais c'est les seuls éléments, et c'est sur cet espace-là, investi par l'énergie et l'organicité de ces comédiens, que va se déployer tout le drame. Que serait un théâtre où le texte serait décorrélé du corps? On en a beaucoup souffert en France de ce théâtre, de ce théâtre-là, qui partait uniquement du cerveau et qui n'engageait pas la totalité du corps, Daniel Mesquich.
Ben, c'est le théâtre, c'est le bon vieux théâtre, celui que j'ai connu quand j'ai commencé à faire du théâtre.
Et que vous avez fui?
Que j'ai fui, bien sûr. Et je faisais partie des metteurs en scène avec des aînés à moi, mais Vitesse ou Chéreau ou quelques autres, qui voulions faire bouger toutes ces choses-là et faire bouger les corps eux-mêmes, bien sûr. Aujourd'hui, je continue à penser que c'est juste, bien sûr, mais je le fais avec plus de parcimonie. Parce que maintenant, c'est comme si on avait trop bien gagné la bataille, vous voyez. Et maintenant, il n'y a plus que des gens qui se roulent par terre en hurlant. Et puis, peu importe le texte. Alors, du coup, j'ai envie de dire, non, attendez. Le texte avant tout. Et donc, pourquoi le texte avant tout? Pas parce qu'il y aurait une préséance traditionnelle de ma part. Encore une fois, parce qu'il ne peut rien y avoir sans ce texte. Aucune mise en scène ne peut avoir lieu, si folle soit-elle, sans ce texte. Si vous me demandiez de faire la mise en scène de la mort d'Agrippine sans le texte de la mort d'Agrippine, mais je n'aurais jamais fait la mise en scène, je ne sais pas, moi. C'est le texte qui me fait faire tout ça, qui me fait demander tout ça aux comédiens. C'est pour ça que je crois que tout est à égalité, mais il y en a un qui est plus égal que l'autre, si j'ose dire, c'est le texte. Et c'est de lui que vient tout, c'est la matrice. Alors, oui, pour les corps, bien sûr, je suis pour que les corps exultent, pour que les corps se tordent, pour que les corps montrent aussi ce qui ne se montre pas. Nous, dans la vie quotidienne, par exemple, je peux rencontrer ici, au Salon du Livre, quelqu'un que j'aime pas bien, je vais lui dire bonjour, comme ça, un peu sèchement peut-être, mais bonjour. Au fond de mon inconscient, peut-être que je me roule par terre et que je suis en train de l'écraser, mais je le dis juste bonjour, vous voyez. Eh bien, le théâtre, ça permet de montrer que je me roule par terre et que j'ai envie de l'écraser.
En même temps, je me suis demandé, en voyant le spectacle, qui est d'une rigueur, de ce point de vue-là, absolue, puisque quand les acteurs doivent prendre la parole et être dans un rond de lumière, ils ne doivent en aucun cas être dans le rond de lumière d'à côté, il faut qu'ils soient d'une précision totale, si cette contrainte que vous leur imposez n'est pas aussi une façon de contraindre le chaos qui est organisé dans la pièce. Parce que on en a parlé tout à l'heure, et je voudrais qu'on y revienne, sur cette idée de mort d'un dieu ou des dieux. Est-ce que cette pièce n'est pas annonciatrice d'un monde où les dieux sont morts, auquel cas ce qui se passe, c'est l'entropie et le chaos, Daniel Mesquich? Et du coup, quelle résonance ça a avec notre monde à nous aujourd'hui?
Vous savez, tout à l'heure, je vous ai répondu à côté de la plaque volontairement. Vous me posiez la question du nihilisme et je vous ai parlé de la métaphore
du théâtre.
C'est que je n'arrive pas à colorier les pièces que je lis et que je mets en scène. Je n'aime pas dire, alors c'est une pièce nihiliste, ou bien ce personnage est jaloux, ce personnage est comme ci, comme ça, ou cette histoire raconte ça. J'en sais rien, moi. Elle raconte rien, elle raconte toutes les possibilités, l'histoire. Le personnage, il est comme on veut qu'il soit. Si on a envie qu'il soit nihiliste, il sera nihiliste, mais si on a envie qu'il soit gentil, il sera gentil, etc. C'est pas, pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est travaillons les mots le plus loin possible pour qu'ils débordent jusqu'à presque leur définition. Définition, comme vous le savez, ça vient de finis, en latin, qui veut dire la frontière, c'est la fin. Définition, ça veut dire que ça s'arrête là. Le mot gobelet s'arrête à un certain endroit et après, il y a micro. Mais gobelet ne veut pas dire micro. Eh bien, on peut pousser ces choses-là, on peut aller plus loin encore, faire entendre par les assonances, par les allitérations, par le rythme même. Vous savez, le rythme transforme le sens. Dit un autre sens, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais Racine, par exemple, est un génie de ça. Il écrit des mots qui ont un certain sens et il les écrit dans un rythme qui dit le contraire. Et au bout d'un moment, on comprend. Par exemple, à un moment, je ne sais pas, moi, Antiochus dira à Bérénice, dans le riant désert qu'elle devint mon ennui, « Je vous cherchais longtemps errant dans Césarée. » Je vous cherchais longtemps errant dans Césarée. Alors on imagine l'Orient désert, le désert infini, loin comme ça, et le pauvre type qui marche tout seul en souffrant. Mais en fait, dans le rythme de « Je vous cherchais longtemps errant dans Césarée », 4, 2, 2, 4, ça se referme sur lui. Vous voyez, 4 et 4 sont aux extrémités. Et en fait, il est en train de dire, dans l'Orient infini, je suis dans un cachot. Vous voyez, ça, c'est les grands poètes qui savent faire ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, plutôt que la coloration psychologico-personnelle de telle ou telle chose. Vous voyez.
Et du coup, vous qui avez été, je le signale, longtemps directeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et qui aujourd'hui continuez à donner des cours et faites beaucoup de masterclass, quand vous avez des jeunes en face de vous, c'est de cette manière-là que vous les initiez au théâtre ? Réponse rapide, parce qu'on approche de la fin de cette émission, Daniel Mesguich, mais ça m'intéresse. Votre pédagogie, elle repose sur ça, sur cette approche-là ?
Bien sûr. J'ai un cours qui s'appelle, en toute modestie, le cours Mesguich. Et dans ce cours, j'ai des élèves avec qui je travaille l'alexandrin intensément, non pas parce qu'ils auraient à dire des alexandrins, on sait bien qu'aujourd'hui on dit de moins en moins d'alexandrins sur les scènes de théâtre, mais parce que c'est la matrice. Quiconque sait dire impeccablement des alexandrins sait tout jouer. Donc bien sûr, je travaille ça énormément.
Ah, vous êtes convaincu de ça ?
Mais certain.
Alors ceux qui n'ont jamais appris à dire les alexandrins ne savent pas jouer ?
Allez au cinéma, écoutez la télé, allez même parfois souvent au théâtre et vous verrez qu'ils ne savent même plus parler.
Écoutez, moi je me destinais à être psychanalyste, je me suis retrouvée comédienne, puis metteur en scène, puis professeur de théâtre.
Mais où va le monde ? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels ? Où sont mes vrais amis ? Pourquoi je me méfie ? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices ?
Et c'est Sarah Mesguich qui le dit, hein. Elle devait être psychanalyste et finalement elle fait du théâtre, mais la psychanalyse et le théâtre c'est, je crois, un peu pareil. Merci beaucoup à vous,
merci
Daniel Mesguich, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre, ici en direct depuis le Salon du Livre. Je signale que La mort d'Agrippine de Hercule Savinien de Cyrano Bergerac se joue au théâtre de Jazé à Paris jusqu'au 20 avril et que par ailleurs la pièce vient d'être éditée en édition augmentée. On y trouve d'ailleurs une longue interview de vous, Daniel Mesguich, c'est paru en livre de poche. Par ailleurs, au Salon du Livre, toujours au stand des éditions des femmes, vous pouvez également trouver deux CD audio. Il s'agit de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, enregistré en français par vous, Daniel Mesguich, et en grec par un helléniste qui s'appelle Emmanuel Lascou. CD publié dans la collection Livre audio des éditions des femmes que dirige Francesca Isidori. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture, bientôt 16h. Emmanuel Morse-Nancan, Sébastien Huel, Martin Guénard, Rémi Gourion, Chouchane, Jer Gaillon, Vanessa Nadjar et Joël Gaillot vous saluent. Excellent dimanche à vous tous.